Les jardinières.
Et déjà, May va tirer sa révérence. Dans moins d'un mois, nous serons en été. Mais avant de penser à peaufiner son bronzage, il reste du travail au potager. Bienvenue chez les jardinières. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour tout le monde. Et attention au coup de soleil surtout.
Oui. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Katiou Racine. Bonjour Katiou.
Bonjour.
Katiou Racine, vous êtes jardinière à Delémont. Ce matin, vous allez nous parler de fleurs et répondre aux questions des auditeurs. Merci d'être avec nous.
Et comme je suis entouré de deux très belles fleurs, je vous propose de partir directement pour une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Les températures sont agréables, le soleil est bien présent, de quoi ravir les jardiniers. Dites-nous Katiou, qu'est-ce qu'on fait au potager fin mai ?
On fait tout.
On est
fois,
au taquet,
on y
là.
Va. Chaque fois que j'étais venue, je vous ai dit attention, prudence, il va faire froid. Nanana. Non, là, vous pouvez tout faire. Pour ceux qui ont un peu d'avance ou bien qui avaient des serres, ben, évidemment, il y a l'entretien des légumes. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est clair qu'on ne fait pas juste planter et attendre que ça pousse. On désherbe. Pour les pommes de terre, on va buter les pommes de terre. On va tuteurer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour ce qui est déjà en place. Et puis, si quelqu'un, tout d'un coup, s'est réveillé et s'est dit, oh là là, je ferais bien un peu de jardin, eh ben, on peut encore sans problème commencer le jardin maintenant, peut-être avec des légumes qui ont une croissance un peu rapide. Par exemple, les courgettes, les côtes de bête, les choses comme ça. On peut aller acheter des plantons qui seront déjà faits parce que c'est un petit peu tard pour faire ses propres plantons. Et puis, mettre un jardin en place maintenant, potager, c'est tout à fait possible. On aura une jolie récolte et en plus, ça poussera beaucoup plus vite parce que les nuits sont à peu près douces, on va dire ça comme ça. Et les journées sont douces et il y a moins de place pour les maladies, les choses comme ça, quand la température est agréable.
Donc, si je vous comprends bien, Katiou, si on est un petit peu de nature impatiente, on a meilleur temps d'attendre fin mai pour commencer son jardin.
Clairement. Commencer trop tôt, c'est toujours, c'est jamais bon parce que on aura des plantons qui auront été longtemps à l'intérieur, qui se seront peut-être un peu étiolés et puis qui seront favorables à recevoir des maladies, des ravageurs. C'est comme nous, quand on n'est pas très très en forme, et ben, si une grippe passe, on l'attrapera beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est en pleine forme. Donc plus on fait ses plantons tard, plus ils sont forts, plus on les met quand il fait chaud, plus on aura de réussite.
Merci beaucoup. Pour poser vos questions à notre spécialiste ce matin, vous avez trois possibilités pour le faire. Vous le faites par téléphone et vous êtes avec nous en direct au 0901 70 20 20 pour 30 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Vous nous envoyez ce message au 939 ou vous pouvez encore passer par le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions, questions jardinières.
Et dans quelques minutes, nous allons mettre de la couleur dans vos jardins. Katiou Racine va nous parler de fleurs.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous allons mettre de la couleur dans vos jardins. Katiou Racine, jardinière à Delémont, va nous parler de fleurs. Pour commencer, Katiou, à part embellir le jardin, est-ce que les fleurs ont d'autres avantages ?
Oh oui, elles en ont beaucoup. C'est souvent bien négligé dans nos jardins, d'ailleurs. C'est bien dommage. Si on fait du potager, par exemple, elles pourront attirer les auxiliaires. Les auxiliaires, donc, ce sont les insectes ou les petits animaux qui peuvent aider à combattre les ravageurs. Donc ça, c'est un avantage. Beaucoup de fleurs sont comestibles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Maintenant, c'est un petit peu la mode. Quand on va au restaurant, il y a des fleurs.
Il y en a partout.
Il y en a partout. C'est très, très joli. Puis à la maison, ça peut être sympa de se faire aussi quelque chose d'un peu plus coloré. Et il y a certaines fleurs qui sont aussi comestibles et qui sont bonnes pour la santé, donc pas juste pour faire joli. Avec les fleurs, on peut faire aussi certains macérats qu'on peut utiliser pour se soigner, entre guillemets, de manière naturelle. Il y a évidemment, on en a parlé, la beauté, hein, quand ça fleurit un peu de manière décalée comme ça, c'est très très joli. On est toujours très attiré, l'œil est attiré par la couleur, donc si on passe devant un jardin qui a beaucoup de fleurs, c'est vrai que ça nous attire l'œil et puis ça fait du bien, je trouve. Et puis, ça peut apporter de l'ombre au potager, selon quelles fleurs on met, on arrive à travailler avec des ombrages et puis à réduire la quantité d'eau dans le potager ou à couvrir certaines plantes, par exemple. Le basilic n'aime pas du tout le soleil, on peut très bien le mettre au potager et puis on ira le mettre un peu sous une fleur ou collé à une fleur. Je n'ai pas un exemple comme ça.
Un peut-être tournesol
alors un petit massif de tournesol, par exemple, assez bas, et bien on pourra le coller au pied et puis en plus et bien, il lui procurera l'ombre dont il a besoin.
Katiou, si on choisit de semer des graines, est-ce que c'est pareil que pour les légumes ou est-ce qu'il y a quelques petites subtilités ?
Des subtilités, non. L'avantage avec les fleurs, c'est qu'on peut, on peut les semer plus facilement directement en place. Le légume, souvent, on doit, justement, on en a parlé avant, faire des plantons qu'on doit garder à l'intérieur. Je m'excuse, je suis un peu enrouée ce matin.
C'est le chat.
Et puis, avec la fleur, on pourra mettre directement en place. On pourra faire des mélanges de semis, c'est-à-dire qu'on pourra prendre plusieurs graines, les mélanger ensemble, les lancer à la volée. À la volée, c'est comme on lançait les graines aux poules autrefois, comme nos grands-mamans faisaient. Donc, on peut très bien lancer ça sur un terrain qu'on aura préparé à l'avance pour faire un joli massif avec plusieurs sortes de fleurs. Je trouve que c'est un peu plus facile de faire des mélanges ou de faire des essais qu'avec les légumes. Et après, on peut bien évidemment, par exemple, on parlait des tournesols avant, c'est un chouette truc de faire avec les enfants à la fin de l'hiver, quand on peut encore pas trop sortir, on va prendre des petits godets, on va planter quelques graines de tournesol dans ces godets, et là, il viendra les plantons, donc on peut aussi le faire en godet. Il y a vraiment, c'est beaucoup plus libre, je trouve.
Et puis, on va parler aussi un peu des plantons de fleurs qu'on trouve en ce moment en jardinerie. Certains ont carrément déjà les fleurs, on peut directement mettre en pleine terre, les fleurs vont supporter ce passage du petit godet en pleine terre directement.
Alors là, il faut être un tout petit peu plus prudent, parce que les plantes fleuries que nous trouvons en grande surface ou chez le jardinier, peu importe, a souvent été préparées sous serre, hein, pour, bah, évidemment pour la quantité. Et puis, si on prend des journées comme la semaine dernière où il a fait vraiment très très chaud, si on prend cette plante-là qu'on achètera en jardinerie et qu'on mettra en plein sud, en plein soleil, ça va être un gros choc pour la plante. Donc, elle va brûler, en fait, même que le soleil n'a pas l'air si fort que ça, mais les feuilles vont devenir translucides. Et puis, eh ben, la plante va mourir, évidemment, ou va vivoter et reprendre, mais peut-être un peu tard dans la saison. Donc là, il faut vraiment faire attention, si vous achetez des fleurs en grande surface ou chez un jardinier, de les planter plutôt quand il fera quelques jours un peu plus frais.
Vous pourriez nous citer par quelques exemples de fleurs à semer ou à planter actuellement ?
Alors, maintenant, on pourrait mettre par exemple les tagettes. Hein, tout le monde connaît les tagettes, en plus qui sont super faciles parce que quand elles ont fini de fleurir, vous pouvez tirer ce qui était en fait les pétales. Ce sont les graines, vous les remettez à côté un petit peu comme ça, comme on mettrait de la farine sur un pain. Et puis, elles vont refleurir, donc ça c'est super facile. Les cosmos, ce sont des grandes fleurs roses ou violettes avec des grands pétales. Le pois de senteur, par exemple, qu'on connaît très bien, qui ressemble à un petit pois, mais qui fait des fleurs qui ont une senteur juste incroyable quand il fait chaud. L'œil de Suzanne, ça c'est une fleur aussi grimpante, qui est jaune, avec un œil noir au milieu de ce jaune. Et puis évidemment, on en a parlé avant, les tournesols, ça on peut vraiment les planter tout le temps, on peut renouveler sans arrêt.
Le choix est donc vaste pour les jardiniers bien occupés au potager, les têtes en l'air ou alors les paresseux. Que proposez-vous de semer ou planter comme fleur qui ne demande vraiment, mais alors vraiment pas trop de travail ?
Alors, quand on dit pas de travail, il faudrait déjà choisir un emplacement où il y aura... Le principal travail des fleurs, en fait, c'est l'arrosage. Donc, il faut déjà choisir un endroit où il n'y a pas trop de soleil ou pas le soleil toute la journée, parce que c'est ça qui nous embête en général. Donc on va déjà choisir l'emplacement. Une fois qu'on a trouvé cet emplacement, on peut à peu près tout mettre, pour autant qu'il y ait suffisamment aussi de terre. C'est-à-dire que c'est toujours une fois une question d'humidité. Plus il y aura de terre, plus l'humidité restera en place. Et puis après, si vraiment on a un endroit qui est très ensoleillé et puis qu'on n'a pas trop le temps de s'en occuper, on peut choisir un peu ce que j'appelle ça les fleurs de cimetière. Donc y a parce que c'est là où c'est le plus exposé au soleil et où on va le moins souvent. Donc il y a par exemple les bégonias. Les bégonias est une fleur qui fleurit abondamment et puis qui a besoin de très très peu d'eau. On pourra mettre de nouveau la tagette. La tagette est vraiment une plante à tout faire. Elle n'est pas super belle, elles ne sont pas très bonnes, mais ça donne de la couleur.
Vous donc la vendez bien.
Elle donne envie, hein, la tagette, là.
Elle donne vraiment envie. Et puis après, on pourra partir dans les plantes grasses, par exemple. On a les joubarbes, qui sont ces espèces de rosaces qui ressemblent un peu à des cactus. Ça, c'est le truc super, parce que ça, on peut mettre en place. Et puis, en gros, on s'en occupe plus du tout. Et la joubarbe, elle fera plein de petits bébés. Et puis, elle s'étendra tranquillement, sans être envahissante, en fait.
On vous remercie.
Donc, c'est des plantes intéressantes, pardon.
On vous remercie, merci à vous Cathy d'être avec nous ce matin. Je vous propose de se retrouver d'ici quelques minutes pour la suite et nous parlerons encore de fleurs.
7h, 8h, les jardinières.
Et ce matin, nous parlons de fleurs. Si elles sont belles, elles peuvent être aussi très utiles. Katiou, alors on sait que les fleurs attirent les abeilles. Vous nous en avez parlé d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. Est-ce que certaines ont un pouvoir répulsif, par exemple, contre les moustiques? Ça serait bien, ça.
Il y en a plein. Il y en a plein. Bonne nouvelle pour les amateurs d'anti-moustiques. Oui, il y a plein de plantes fleuries ou de plantes même aromatiques qui ont des vertus anti-moustiques. Par exemple, le géranium rosa qui est très, très méconnu, qui est une plante magnifique. Alors, quand on pense géranium, on pense grand-maman, les géraniums rouges sur la fenêtre, qui fait plein de chenilles par terre. Eh ben, c'est pas ça du tout. C'est un beau petit géranium qui est très découpé. Si vous avez le temps d'aller voir sur le net, le géranium rosa, qui a vraiment un pouvoir anti-moustique très fort. Et puis, en plus, on peut faire du sirop avec. Donc, c'est vraiment une plante qui est super intéressante, mais qui a une odeur particulière. Ça tirera un peu contre la rose, l'odeur. On a la lavande, qui est bien connue, qui est très belle aussi, qui fleurit. Qu'on peut mettre en place même en pot, hein, on n'est pas obligé de mettre ça en pleine terre, pardon. La citronnelle, alors là on partira dans la plante aromatique, donc la mélisse citronnelle qu'on pourra utiliser aussi en tisane, donc c'est toutes des plantes qui sont multi-usages, c'est pas juste pour faire beau ou pour servir pour une chose. On a le thym citron aussi, en fait tout ce qui a un peu cette odeur de citron fait fuir les moustiques. On aura encore Le souci, en plus, c'est une fleur qui est comestible, qu'on peut mettre sur la salade, donc il est aussi intéressant. Et puis les nématicides, donc il éloignera les nématodes dans le potager. On a encore le basilic, qui là sert aussi à plusieurs choses. Et puis par exemple, l'eucalyptus, celui-là, il est juste dommage parce qu'il faut l'enlever en hiver. Donc il y a vraiment beaucoup de belles choses qu'on peut mettre anti-moustique autour de la maison.
Katiou, au potager, on trouve des légumes en général, c'est une habitude, mais y a-t-il des variétés de fleurs qui sont des alliés pour les plantations de légumes ?
Oui, aussi. Je reparle de la tagette. Alors la tagette, par exemple, moi j'ai fait mon potager circulaire à la maison et j'ai fait les 4 points cardinaux que j'ai séparés par des tagettes. Et les tagettes sont super intéressantes pour les limaces. Donc si vous en mettez un petit peu partout entre vos plantations, c'est leur menu préféré. C'est un petit peu comme moi si vous me dites qu'il y a un steak tartare ou un sandwich. Je vais au steak tartare. Donc pour elles,
bon appétit.
Merci. La tagette est super intéressante. Donc elles vont d'abord s'intéresser à la tagette avant d'aller s'intéresser à d'autres légumes. Donc là, c'est intéressant de glisser ça entre. En plus, c'est une fleur qui prend peu de place. La capucine, par exemple, qui est aussi une très jolie fleur comestible, et puis là, qui est très prisée des pucerons. Donc on pourra mettre la capucine près des haricots parce que c'est une fleur plante grimpante. L'œillet d'Inde qui est très joli, qui est très coloré, qui est une petite plante buissonnante et puis elle éloignera les nématodes, aussi une plante nématicide. Et puis par exemple le lupin. Lui sera intéressant parce qu'il va capter l'azote de l'air pour le fixer dans le sol. Donc lui travaillera plutôt au niveau du sol. Donc il y a vraiment des plantes à mettre qui peuvent servir à plein de choses.
Les jardinières.
Suite des jardinières. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h ce matin. C'est Katiou Racine, jardinière à Delémont, qui répond à vos questions jardinage et qui nous parle fleurs.
Et on attend bien sûr vos questions par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous envoyez tout ce petit monde au 939. Ou vous pouvez également remplir le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et là, vous pouvez même y joindre une photo.
Et avant de répondre aux questions des auditeurs, on va parler encore un petit peu de fleurs en votre compagnie. Katiou, on avait encore 2-3 questions à vous poser. Par exemple, si une partie de notre jardin est plus caillouteuse, vous proposez quoi comme fleurs? Alors, vous nous avez beaucoup parlé des tagettes tout à l'heure. Est-ce que les fleurs, les tagettes, vont aussi dans les cailloux?
Alors non, là, elles ne se plaisent pas.
Zut.
Navré de vous contrarier. Non, là, on mettra plutôt des vivaces de rocaille. Donc là, ça sera quelque chose de très facile. Et c'est, le seul problème est de les trouver à la bonne période. La vivace, en général, elle est en magasin très tôt dans la saison, c'est-à-dire en janvier ou février. Et puis, parfois, quand c'est cette période-là, on ne pense pas d'aller acheter nos plantes pour la suite. Donc là, si vous avez un terrain qui est un peu rocailleux ou très exposé au soleil avec beaucoup de cailloux, il faudrait penser au mois de janvier ou février à courir dans les jardineries, un petit peu regarder ce qui est déjà arrivé pour pouvoir faire les plantations plus tard. Donc ça veut dire que vous devrez les conserver à la maison dans de bonnes conditions. C'est pas très compliqué, mais voilà, ça demande un petit peu de travail. Après, on peut aussi penser à quelques plantes alpines qu'on trouve si on va un petit peu se promener en moyenne montagne. Il y a certaines plantes qu'on ne doit pas prendre, bien sûr, mais qu'on trouve dans les jardineries un peu plus tard. Donc repérer un petit peu, faire des photos si vous ne connaissez pas les noms, de voir les plantes alpines qui vous plaisent, puis aller les acheter en jardinerie. On pourra mettre aussi de petits conifères. Quand on se promène chez nous, par exemple du côté du Rémeux, si on monte au Rémeux du côté plein sud, on remarquera que dans ces cailloux, il y a des petits conifères qui poussent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très sympa. Et puis sinon, ben, on parlait avant de la joubarbe, ces espèces de rosettes un peu comme des cactus. Ça, c'est typiquement des plantes qui se plairont dans ce genre de sol.
Est-ce qu'on pourrait comparer, et tous les conseils que vous venez de donner pour les parties un peu caillouteuses, est-ce que ça marche aussi pour les plates-bandes ou est-ce qu'il y a d'autres variétés de fleurs qui seraient bien ?
Dans les plates-bandes, on pourra mettre... Ça dépend toujours de l'exposition. C'est vraiment toujours ça, le déterminant de ce qu'on va planter. Si c'est une plate-bande qui est en plein milieu du jardin, légèrement ombragée par un joli conifère, on pourra mettre, par exemple, des hostas. Vous avez sûrement vu ça, c'est des grandes feuilles qui font très peu de fleurs, mais qui sont très panachées, comme ça. On pourra mettre des rhododendrons, des choses comme ça. Si tout d'un coup, on a une plate-bande qui est... très au sud, peut-être contre une véranda ou contre un mur. Là, on ira avec des plantes qui sont plutôt des plantes justement du sud. Il faut toujours se représenter l'endroit. J'ai une plate-bande qui est très exposée au soleil, très sèche. Je peux aller sur Internet et puis regarder les plantes qui poussent, par exemple, en Sicile. Hein, ça sera un peu le même type de climat pour l'été. Et puis voilà, il y aura peut-être du thym, il y aura de la lavande, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment se dire, ben voilà, il y a ce climat-là, qu'est-ce que je peux y mettre ?
Merci beaucoup, Katiou. On va terminer avec votre fleur coup de cœur à vous, Katiou. C'est laquelle et surtout pourquoi ?
Alors, ma fleur coup de cœur, elle est un petit peu bizarre. Ça s'appelle un arôme, A-R-U-M, puant. Alors ça, c'est un tubercule qu'on va mettre en terre. Et c'est une plante qui vient à peu près à un mètre de hauteur. Et cette plante, elle va fleurir un ou deux jours dans l'année. Et quand elle va fleurir, c'est une plante qui est super intelligente malgré qu'elle n'a pas de cerveau. Elle va développer la couleur de la viande avariée, l'odeur de la viande avariée et la température de la viande avariée. Les mouches vont venir s'y mettre, vont tomber dans le réceptacle. Elle va les enfermer avec des... comme des petits barreaux pendant 24 heures. Et puis au bout de 24 heures, elle va faner. Elle va libérer les mouches qui vont aller polliniser et puis reproduire cette plante. Pas chez nous, évidemment, parce qu'elle ne se reproduit pas comme ça, mais c'est le travail qu'elle devrait faire dans son pays d'origine.
En tout cas, c'est vos voisins qui vous disent merci.
Oui, dans 2-3 jours, ils vont être contents, là, parce qu'elle est prête. Elle est prête.
En tout cas, on vous remercie, Katiou, pour toutes ces découvertes. Il ne nous reste plus qu'à fleurir donc nos jardins. Et pour la suite des jardinières, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour répondre, bien sûr, à toutes les questions de nos auditeurs.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On répond à vos questions, des questions que vous pouvez poser par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou alors en passant par le formulaire disponible sur notre site ou par SMS en tapant jardin un espace suivi de votre question. Vous nous envoyez tout ça au 939 et parfois vous téléphonez mais vous n'osez pas nous parler en direct.
C'est ça, la timidité. C'est ça, c'est de la timidité comme Marie-Thérèse qui m'a posé ses questions hors antenne pendant que vous écoutiez de la musique. Et elle s'adresse à vous, Katiou. Elle voudrait savoir si il y a des plantes qui pourraient protéger contre les courtilières, ces petits insectes qui mangent les légumes.
Alors malheureusement non, parce que la courtilière justement, c'est pas qu'elle aime les plantes. En fait, elle se nourrit pas du tout de plantes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle fait des galeries. Et puis, pour ceux qui ont déjà vu une courtilière de près, elle a des espèces de pinces devant qu'elle se sert pour creuser. Et en fait, elle fait aller ses pinces pour avancer, puis elle coupe les racines. Donc cette pauvre petite courtilière qui est très très mal aimée, tout le monde, en fait, elle en veut absolument pas vos plantes, c'est là où elle passe. Donc voilà, il faudrait pouvoir barricader le tour du jardin avec quelque chose qui vient au fond de la terre, par exemple sur 20 ou 30 cm en profondeur, des dalles ou quelque chose comme ça. Il faudrait pouvoir barricader le bas du jardin, je ne sais pas comment expliquer, sous terre.
Il faut être motivé.
Oui, il faut être super motivé. Et puis si on veut contrer la courtilière, il existe maintenant la terre de diatomée, qui est un insecticide complètement naturel, c'est un insecticide minéral. Et puis ça, on peut mettre un peu dans les trous de courtilière pour autant qu'on les trouve. Et puis ça va lui bloquer tout ce qui est mécanique des pattes et elle va mourir parce qu'elle ne va pas pouvoir avancer. Mais la courtilière, ça devient très très difficile de s'en débarrasser.
Mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'elle n'en veut pas aux plantes. Et ça, c'est très important. Oui. Et puis, Marie-Thérèse nous a également parlé de bouillie, d'un système d'arrosage. Je ne suis pas sûre d'avoir totalement bien compris la question.
Oui, alors bouillie, moi quand on me parle de bouillie, ça sera plutôt une préparation. La bouillie, elle peut être faite de différentes façons. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle aimerait savoir, cette dame, mais par exemple, si on fait une bouillie, un purin d'ortie, là, qui va renforcer les plantes, on appelle ça aussi une bouillie, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, pour l'ortie, prendre 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau. Et puis, on va hacher ça finement dans l'eau et laisser macérer jusqu'à une certaine fermentation. Et quand ça finit de fermenter, on peut le filtrer et puis pulvériser ça sur nos plantes ou le donner en arrosage. Puis, ça sera un excellent fortifiant. Et puis, quand on fortifie les plantes, eh ben, ça évite qu'il y ait aussi des maladies ou des ravageurs. Elles sont un peu moins sujettes à se faire attaquer. Donc, ça, c'est une forme de bouillie. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'elle voulait savoir ou autre chose.
Elle peut toujours nous écrire ou nous rappeler pour avoir plus de renseignements. On a reçu une autre question qui nous vient de Patricia des Ponts de Martel. Elle nous dit bonjour, quelle maladie à mon rhododendron et que puis-je faire? Alors on voit sur la photo son rhododendron, j'arrive pas à le prononcer, où en bas il est très beau, très vert et en haut bah, les feuilles elles ont l'air d'être brûlées sur la moitié en tout cas.
Alors, c'est pas du tout une maladie, c'est un ravageur qui attaque volontiers les plantes de terre de bruyère, telles que le rhododendron, les azalées, les lauriers, par exemple, aussi, qu'on a en plante de haie. On voit très bien sur le bas de la photo, bon, les auditeurs ne voient pas, mais nous, on le voit, que ces feuilles, elles sont découpées, en fait. Et puis, du fait d'être découpées, c'est un petit coléoptère qui s'appelle othurinque. Et ce petit coléoptère, on ne le verra pas parce qu'il agit uniquement la nuit. Vous avez sûrement déjà vu ces gros vers blancs qu'on trouve dans le sol. Alors, on pense toujours que c'est des larves de hanneton. Il y a beaucoup de sortes de larves qui ressemblent à la larve de hanneton, mais qui n'en est pas. L'othurinque en fait partie. Donc, une fois qu'il aura fini sa mutation de larve à insecte, il va monter sur le rhodo ou sur les autres plantes et puis il va faire toutes ses découpes autour des feuilles. En fait, il se nourrit, il fait comme de la dentelle autour. Et puis là, malheureusement aussi, il n'y a plus grand-chose dans les produits chimiques parce que là, il y avait vraiment que la chimie. La meilleure chose à faire, ça sera de pulvériser cette terre de diatomée qu'on trouve à peu près dans tous les commerces maintenant. Donc ça, c'est super bien. Et puis, on peut mettre aussi à la base de la plante une bande autocollante qu'on trouve aussi dans les commerces qui empêchera ce petit insecte de monter. C'est que du mécanique, mais ça fonctionne très bien. Donc, c'est l'othurinque.
Merci beaucoup, Katiou. Je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle question, celle de Florence, que l'on vient de recevoir sur notre formulaire, sur notre site internet. Bonjour, j'ai retrouvé une multitude de petites chenilles hier devant chez moi. Sur les réseaux sociaux, on m'a parlé de pyrale du buis. Et ce matin, j'ai découvert la haie de berbéris, arbuste avec beaucoup de piquions et feuilles rouges dévorées par ces chenilles. Est-ce vraiment la pyrale de buis qui a changé d'arbre? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire?
Alors, c'est possible qu'elle soit allée sur du berbéris, parce que le feuillage est à peu près la même chose. C'est un feuillage très drut et très petit. Maintenant, sans photo, sans rien du tout, on voit la pyrale, elle va vraiment faire beaucoup de toiles, en fait, énormément, comme des toiles d'araignée, mais en fait, elle fait des toiles de chenilles. Et puis, là, il existe un produit, il n'y a rien d'autre à faire que de passer par la chimie. Il y a un produit qui a été développé il y a une dizaine d'années, quand l'invasion a commencé. Vous trouvez ça dans les surfaces un peu spécialisées. Et puis, il faut pulvériser ça, mais très, très rapidement, parce que la pyrale du buis est vraiment une grande vorace, et puis elle peut très vite décimer les plantes que vous avez autour de la maison. Donc, agir très vite, et puis venir au magasin demander un produit phytosanitaire contre la pyrale du buis.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est presque fini pour aujourd'hui, mais on a encore quelques questions pour vous, Katiou, qui est avec nous jusqu'à 8 heures pour répondre aux questions de nos auditeurs. On a reçu une photo de la part de Corinne de Saint-Imier, qui nous avait déjà écrit il y a quelques semaines. Elle nous dit, suite à une précédente question il y a quelques semaines, pourquoi ce muguet trouvé en forêt ne fleurit pas plus. Et puis, Bacatio, je vais vous demander de décrire cette photo, peut-être.
Alors, cette photo, on voit, bon, elle est un petit peu prise de loin, donc on voit plusieurs tiges qui ressembleraient à du muguet. Et puis, elle est surtout avec beaucoup de feuilles mortes, et puis on voit que c'est assez sombre. Donc, à mon avis, c'était dans un endroit qui était très, très sous-bois, en fait, très ombragé par des grands arbres. Je pense que ce n'est pas du muguet, c'est plutôt de l'ail des ours. Donc, c'est pour ça que ça fleurit pas. On peut le voir de différentes façons. La première chose que là on ne verra pas, mais qu'on sentira, si vous avez un doute, si vous prenez une feuille de ce que vous pensez muguet ou ail des ours, vous prenez ça, vous frottez entre vos doigts. Ça sent vraiment, si c'est de l'ail des ours, ça sent vraiment très fort l'ail ou la ciboulette. On aura vraiment cette odeur qui est assez piquante comme ça. Si vous faites la même chose avec du muguet, ça sentira absolument rien du tout. Donc ça, c'est la première chose à faire et je pense qu'on ne peut pas se tromper, sauf si on a un gros rhume. La deuxième chose, c'est le muguet. L'ail des ours, en fait, il a plusieurs feuilles et il y a toujours une tige. En fait, il y a le sol, il y a une tige et ensuite, il y a la feuille. Le muguet n'a pas de feuille. Donc lui, il y aura le sol, pas de tige. Il y aura le sol et directement la feuille qui va sortir du sol. Donc là, on peut très bien le voir aussi sur la photo, qu'il y a un bout de tige. Donc c'est vraiment de l'ail des ours. Et puis, ben, il faut être quand même très prudent. Si vous n'êtes pas sûr, vous en prenez quelques feuilles. Maintenant, bon, on est tard dans la saison, ça ne se récolte plus. Mais vous en prenez quelques feuilles et puis vous faites sentir à quelqu'un d'autre qui vous confirmera bien que c'est cette odeur d'ail qui est dominante. Comme ça, il n'y a pas de...
Exactement. Pas goûter. Enfin, sauf si vous détestez la personne.
Voilà, sentir. Exactement.
Merci vraiment. Pour ce bon conseil, Milano.
Mais avec plaisir. Et puis, Katia, pour terminer rapidement, avant de vous laisser filer, qu'est-ce que vous allez faire, vous, ce week-end au jardin ?
Ah, mais je vais un petit peu arroser s'il ne vient pas de pluie, mais je dis bien un petit peu, parce que ce n'est pas la peine de mettre des litres et des litres d'eau dans votre jardin. Plus vous arrosez, plus vos plantes auront besoin d'eau et moins elles auront de goût. Donc attention avec l'arrosage, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Parfois, on pense que c'est très sec parce que dessus, c'est très croûteux puis très sec. Si vous prenez une petite pelle puis que vous creusez un peu, vous verrez que c'est encore très humide à l'intérieur. Donc la meilleure chose à faire dans un cas comme ça, c'est de donner un petit coup de binage, c'est-à-dire casser cette croûte qui est dessus, de manière à ce qu'il y ait des échanges qui puissent se faire. Et puis, ne gaspillez pas l'eau, ça ne sert à rien.
Katiou, on ne sait jamais trop quand on doit arroser. Est-ce que vous conseillerez plus d'arroser tôt le matin ou plutôt tard le soir quand le soleil commence à se coucher ?
Soit l'un, soit l'autre, selon vos disponibilités. En général, le matin, on est toujours un peu à la bourre. Donc, on se dit, ouais, je vais le faire demain matin. Et puis, à midi, on se dit, oh mon Dieu, il fait trop chaud, il y a tout qui va mourir. Donc, c'est plutôt le soir, quand on a le temps. Sitôt que le soleil est un peu plus bas, il n'y a pas besoin qu'il n'y ait plus de soleil, mais qu'il soit un peu moins chaud. On le sent sur notre peau aussi. Et puis, on arrose tranquillement. On évite de trop mouiller le feuillage. Et puis c'est tout bon.
Merci beaucoup, Katiou. On rappelle que vous êtes jardinière à Delémont. Merci d'avoir été chez les jardinières. On vous dit à très vite. On vous souhaite un très bon week-end.
Merci à vous aussi.
Merci, Katiou. La semaine prochaine, nous recevrons Claudine Miseret, maraîchère à Charmoy. Et puis, n'attendez pas samedi prochain pour nous faire parvenir vos questions. Faites-le à tout moment via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émissions, questions jardinières ou par SMS au 939 en tapant jardin suivi d'un espace et votre question. Bon week-end, Raphaël.
Un bon week-end, Milana.
Et bon week-end à toutes et à tous. Et attention au soleil.
Les jardinières.